9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est bien la première fois qu'on sera en avance à l'antenne de Beurre FM. Et bien ça tombe bien, on aura une minute pour être avec vous, une minute en plus, vous le savez, le jeudi. C'est l'imam Abdelali Mamoun qui est avec vous. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'est déjà présenté déjà pendant l'émission de
Hadith. Non, mais il y a beaucoup de gens qui se branchent à 9h et pas à moins une. Donc, vous pouvez vous représenter, Imam Abdelali.
Je pense que l'important, c'est ce que je vais dire et pas ce que je suis. Donc, moi, je suis assez réticent sur le fait de mettre en valeur ma personne, puisque je suis contre le culte de la personnalité. Je suis iconoclaste et non pas iconodoule. Iconodoule.
Qu'est-ce que c'est qu'iconodoule?
Un iconodoule dans la christologie, c'est le fait de vénérer Jésus en statue.
Ah bon, je vais le garder ce mot, tiens, on l'expliquera un jour dans Speak Uni. Bien, nouvelle émission, nouveau rendez-vous, vous retrouvez l'imam Abdelali Mamoun tous les jeudis de 9h à 10h et on démarre cette émission.
Et les chrétiens sont iconodoules depuis 843, lors du concile de... Alors, je ne sais plus de quelle ville ils l'ont fait, je crois, à Nicée, je crois. Et c'était Théodora, la reine Théodora, qui a imposé ce concile pour imposer Jésus sur la croix. C'est à partir de là que Jésus est sur la croix, alors que les protestants sont revenus iconoclastes. Les protestants, eux, ne mettent que la croix, ils ne mettent pas Jésus en statue sur la croix. Tu sais ça, Philippe?
Bien, non, je ne sais pas, imam Abdelali. Heureusement que vous êtes
là
pour
moi. Tu vas dans un temple protestant, là, il n'y a que la croix qui est affichée au mur. Alors que tu vas dans une église catholique... Tu vas trouver la croix plus Jésus, la statue de Jésus.
Parce que les chrétiens, ce sont les catholiques, les protestants et les orthodoxes.
Voilà. Voilà. Eh bien, les orthodoxes catholiques, eux, mettent Jésus sur la croix. Et par exemple, il y a des vitraux avec des images. Ce qu'on appelle le culte de l'image, c'est être iconodoule, tout simplement.
Très bien, merci pour cette explication de texte, imam Abdelali. On démarre cette émission, comme chaque semaine, par une question qui fâche. Et si Allah est un dieu de bonté et de miséricorde, imam Abdelali, pourquoi a-t-il créé des démons, et quelle est la réalité de ces créatures?
Alors d'abord, Dieu n'a pas créé de démons. Il est faux de penser que Dieu a créé une race de créatures qu'on appellerait les démons, et ça n'existe pas. Dieu n'a créé que quatre races dans sa création. Il y a la race humaine, hein, pour ceux qui pensent qu'il reste une race noire, ou une race blanche, ou une race jaune, etc. Non, il n'y a que la race humaine qui existe. Ça, c'est la première des races, qui est ce qu'on appelle visible. Cette race-là est dotée de capacité de choisir. Elle a ce qu'on appelle le libre arbitre, entre faire le bien ou le mal. Il existe une autre catégorie, une autre race de créatures de Dieu, qui a elle aussi le choix de faire le bien et a le libre arbitre, c'est la race des anges, des djinns. Et attention, au pluriel on dit djinnoun, hein, ça y est, la fameuse expression qui fait peur à tout le monde, attention, il y a des djinnouns. Pour faire peur aux gens en disant que dès qu'il y a un djinn, ça veut dire, le pluriel de djinn, c'est djinnoun. Ça veut dire que là, on est mal. Alors que c'est faux. Il y a des djinns musulmans, il y a des djinns qui sont croyants, il y a même des djinns chrétiens, il y a des djinns juifs, il y a des djinns de toute confession, de la même manière qu'il y a des humains musulmans, chrétiens, juifs, etc., ou athées ou agnostiques. Donc, la race des djinns est prédisposée à faire le bien comme à faire le mal, comme les humains. C'est ce qui fait la spécificité de ces deux créatures, que Dieu appelle en un mot « al-thaqalan ». Al-thaqalan, c'est-à-dire ce sont ces deux créatures qui vivent sur terre et qui sont concernées par le message du prophète ou des prophètes que Dieu a envoyé à l'humanité, qui appelle bien sûr à adorer qu'un Dieu et à faire le bien. « Alladhina amanu wa amilu s-salihat ». Donc le fait de faire le bien et d'accomplir des bonnes actions est la mission des humains et des djinns. Il reste encore deux autres créatures que Dieu a créées, une visible et une autre invisible. Il reste les animaux, qui eux n'ont ni choix de faire le bien, ni choix de faire le mal. Ils suivent leur instinct. Hein, ils sont ce qu'on appelle les tabi'un al-gharaiz, al-ghariza al-hayawaniya, l'instinct animal, et la nature de cette créature qu'on appelle l'animal, l'animal qui a été créé au service de l'homme. Soit pour que l'homme utilise sa force, telle que par exemple les éléphants, les chameaux, les chevaux, etc. Où on va utiliser sa chair pour se nourrir. C'est le cas pour les bovins, les ovins, la volaille, etc. que l'on va élever pour consommer. Alors il reste aussi une autre catégorie d'animaux qui est une catégorie d'animaux sauvages qui eux ont été créés pour réguler la faune et la flore, pour réguler ce qu'on appelle la pour réguler ce qu'on appelle l'équilibre de la nature, ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Quand vous enlevez un maillon de la chaîne, eh bien ça dérègle tout. Hein, quand on dit que tel animal mange tel animal, que celui-ci mange de tel animal, etc., et ainsi de suite, ça permet de créer un équilibre dans la nature. Mais dès que vous enlevez un maillon, dès que l'homme intervient et détruit l'un de ces maillons, eh bien, c'est toute la faune et la flore, c'est toute la nature qui se dérègle. Et donc, il est important de conserver, de préserver ce que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir permettre à cette nature d'être au service correctement de l'homme. Dieu, dans le Coran, dit. Hein, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Hein, Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer ainsi que les vaisseaux, ils voguent, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc, tout ce que Dieu a mis sur terre, il l'a mis à la disposition de l'homme, hein. On parle des créatures visibles qu'on appelle les animaux. Il reste encore une quatrième catégorie qui, elle aussi, est au service de l'homme. Ce sont les créatures invisibles qu'on appelle les anges. Les anges aussi ne sont pas dotés du libre arbitre. Ils n'ont pas le choix entre faire le bien ou le mal. Ils ne peuvent faire que le bien. Ils ne peuvent que obéir à Dieu. « La ya'asuna Allah ma amarahum » comme dit Allah Azza dans le Coran, hein, ils accomplissent tout ce que Dieu leur ordonne et en aucun cas ils désobéissent aux ordres de Dieu. Donc ils sont instinctivement poussés à adorer Dieu et à obéir à Dieu. C'est ce qu'on appelle les anges. Alors plusieurs missions chez ces anges. Il y a des anges protecteurs, wa inna alaykum la hafidin, des anges qui écrivent, qui ramènent katibin, des anges qui sont chargés d'envoyer par exemple les nuages tels que Michaël, des anges qui sont là pour donner la mort aux gens, c'est-à-dire pour faire mourir les gens, hein, Azraïl, Malak al-Maut, ou Nazi'at al-Gharqa, ou Nashitat al-Nashta, comme Dieu les décrit dans le Coran, hein. Et voilà, il y a une multitude de rôles que Dieu a confié aux anges de faire, tout ça au service de l'humanité, puisque dès que Dieu crée l'homme, il dit aux anges de se prosterner devant lui. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Tous les anges se sont prosternés. إِلَّا إِبْلِيسَ. Sauf une créature qui vivait parmi les anges, mais qui n'est pas un ange. Dans le Coran, il est dit clairement. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. كَانَ إِبْلِيس. إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Donc, cette créature qui s'appelle Iblis est dotée du libre arbitre d'obéir ou de désobéir. Dans un premier temps, il était très obéissant, il était très pieux, très adorateur, à tel point que les anges étaient en admiration face à son savoir en matière d'adoration et dans son excès d'adoration. Ils étaient en admiration, mais Dieu a voulu dévoiler ce qu'il cachait au fond de lui-même, c'était le vice de l'orgueil. Et quand il lui a dit « Mais pourquoi refuses-tu de te prosterner devant celui que j'ai façonné de mes propres mains ?»« Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday astakbarta am kunta min al'alin » Est-ce que tu te considères comme prétentieux ou orgueilleux, ou est-ce que tu te prétends parmi ceux qui sont élevés? Et là, qu'est-ce qu'il répond Iblis, il dit « Ana khayrum min » Je suis mieux que lui. Tu m'as créé, façonné de feu, alors que tu l'as façonné d'argile ou de terre. Donc, à partir de là, Dieu va damner, bien sûr, Shaitan, et il va le pousser, bien entendu, à devenir, l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est un djinn qui va créer et fonder la source du mal. Mais c'est pas Dieu qui a créé la source. Dieu est miséricorde. C'est lui, Shaitan, c'est une créature, un démon, un djinn, qui n'est pas une race qui s'appelle démon, c'est le djinn. Mais il y a aussi des démons, hommes, tout autant qu'il y en a parmi les djinns. Hein. C'est pour cela que Dieu, dans le Coran, dans la toute dernière sourate et dans le tout dernier verset, il nous demande de faire attention et de nous préserver des démons, qu'ils soient hommes ou humain ou djinn, hein, qul a'oudou bi rabbin nas, dernière sourate, malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, hein, préserve-nous de celui qui insuffle le mal dans le cœur, qu'il soit un humain ou qu'il soit un djinn ou un humain. ou
qu'est-ce qu'on peut dire pour s'en protéger?
Alors, bah oui, c'est tout simplement déjà réciter souvent avant de dormir, quand on se réveille le matin, ces deux dernières sourates du Coran. Donc, en gros, tout ça pour revenir à quoi? La conclusion, c'est quoi ce que je voulais dire, Philippe? C'est que Dieu, en aucun cas, n'a créé une créature qui est innée, mal, qui est mauvaise, ça n'existe pas, ou malfaisante. C'est lui qui choisit. Dieu donne forcément le libre arbitre. La seule créature qu'il a forcée à faire le bien,
c'est les anges.
C'est les anges. Mais il n'a jamais forcé une créature à faire le mal. Il n'a que donné le choix. Et c'est pour cela que Dieu, dans le Coran, il dit à Iblis et à tous ses acolytes, qu'ils soient humains ou djinns, il leur dit que vous irez tous en enfer. Vous serez tous voués à l'enfer, tout, vous et toi, c'est-à-dire toi, Iblis, et tous ceux qui t'auront suivi dans ce mauvais chemin que tu as choisi. Donc Dieu, dans sa grande miséricorde, je le rappelle, en aucun cas a créé des démons ou a créé des soldats malfaiteurs qui sont au service du mal et qui seraient... Non, c'est eux-mêmes qui ont choisi de devenir et de faire le mauvais choix de devenir des mauvaises créatures. Voilà, en gros...
De faire le mal.
De faire le mal, tout à fait.
Dans cette émission, Imam Abdelali, chaque semaine, on s'intéresse à une profession, ça s'appelle job éthique. Et je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez que l'Imam Abdelali s'intéresse au métier que vous faites, puisque vous vous interrogez, et voir s'il est compatible avec votre pratique, vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable, Imam Abdelali.
Ah oui, donc si vous voulez, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Donc, je répète, 06 29 25 35 00. Bon, c'est le numéro pour... me poser vos questions religieuses qui relèvent de votre pratique au quotidien, mais c'est aussi un numéro pour s'inscrire pour le petit pèlerinage, cette Omra que l'on va faire. Et on va reparler tout à l'heure avant la fin d'émission, Inch'Allah.
Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux marchés. Pourquoi est-ce que les marchés sont des endroits qui posent des questions?
Alors en effet, le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit que le pire des endroits sur terre, c'est les marchés. Alors, bien sûr...
Qu'est-ce qu'on appelle les marchés? Parce que là, c'est la bourse ou c'est le marché de la rue Aligre?
Eh bien, c'est les deux. C'est les deux, parce qu'il y a effectivement un marché virtuel qu'on appelle la bourse, où on vend et on échange des produits virtuels qu'on appelle des actions, qui sont finalement des morceaux d'entreprise, des morceaux de société, hein, des petits morceaux qu'on appelle des actions. Et donc où les gens achètent et revendent selon les fluctuations de la bourse, de la hausse et la baisse de la valeur de ces actions sur le marché international. Il y a tout simplement le marché dans lequel on va chercher et acheter ses légumes, ses fruits, sa viande, etc., etc. Et là, effectivement, il y a énormément de choses qui causent problème et qui suscitent la colère de Dieu, parce que c'est dans ces lieux-là où la fraude, la tromperie, l'usure, hein, le riba, le mensonge, le kadib, la violation des promesses, khianat al-wa'd, ainsi que la négligence dans la vocation de Dieu, c'est un endroit où ce qu'on évoque rarement Dieu, à part quand il s'agit de jurer faussement, al-yamin al-ramous, hein, c'est de jurer en disant wallah al-azim, ma marchandise elle est de très bonne qualité, c'est la meilleure, wallah al-azim, et on va utiliser le nom de Dieu, on va lui enlever sa valeur, le dévaloriser de manière à ce qu'on puisse convaincre le client à acheter la marchandise. Donc Dieu est d'une certaine manière humilié par ces commerçants qui utilisent son nom
Un argumentaire commercial.
Comme un argument commercial et pour convaincre la clientèle de la véracité, de la qualité de leurs produits, etc., etc. Donc on va jurer, wallah al-azim. Donc c'est un endroit où est-ce qu'on évoque rarement Dieu que seulement pour au lieu de le mettre en valeur, au lieu de l'élever, de le glorifier, on va l'humilier. Donc c'est pour cela que Dieu lui-même dans le Coran, il dit à son prophète, n'écoute surtout jamais ceux qui multiplient et qui ne cessent de jurer. Hein, il dit dans le Coran, wala tuti' kulla halafin mahin, hein, celui qui jure et qui humilie le nom de Dieu, hein, yuhin ism Allah azza wa jal, hein, yuhin mahin, c'est-à-dire alladhi yuhinu ism Allah azza wa jal, qui humilie le nom de Dieu en jurant sur tout et n'importe quoi, wallahi al-azim, ma viande est bonne, elle est de bonne qualité, pardon, Etc., etc.
C'est l'imam donc, Abdelali qui digère son petit déjeuner.
Effectivement, je viens de prendre un bon petit déjeuner, c'est vrai. Hani an lil souam, je félicite ceux qui ont décidé de suivre cette sunna, qui est de jeûner le lundi et
le jeudi.
Donc pour revenir à ce.
Au marché.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, selon Hudayfa ibn al-Yaman, rapporte que celui-ci a dit, on apporta à Allah un serviteur parmi ses serviteurs, à qui il a donné des biens. Allah lui a dit, qu'as-tu fait dans la vie d'ici-bas? Il a dit, ô Seigneur, tu m'as donné de tes biens, c'est-à-dire tu m'as donné de l'argent. Ainsi, je faisais du commerce avec les gens. Et l'indulgence faisait partie de mon comportement. J'accordais des facilités à la personne ayant quelques difficultés et je donnais un délai à celui qui ne pouvait pas payer. Allah a dit, je suis plus en droit de cela que toi. Pardonnez à mon serviteur. Voilà comment... Dieu récompense dans l'autre partie, c'est-à-dire quand un commerçant agit avec souplesse, avec générosité, avec conciliation, dans une démarche où est-ce qu'il est empathique avec les gens qui ont peu de moyens d'acquérir des biens, eh bien, il est à l'égard de ces commerçants. Par exemple, الَّذِينَ يُقِيلُونَ عَثْرَةً يُقِيلُونَ النَّادِمِينَ. Par exemple, quand quelqu'un regrette une transaction, en principe, elle est ferme. Quand tu as acheté et tu as quitté et tu t'es séparé de l'autre partie, dès qu'il y a eu séparation des corps,
c'est fait.
On peut pas revenir en arrière. Mais le prophète dit, man aqala nadiman aqala Allahu athratahu yawm al-qiyamah. Celui qui accepte par compassion et par conciliation d'accepter d'annuler une transaction que l'un des parties a regretté d'avoir signé et qui lui rend sa marchandise et qui reprend son argent en annulant la transaction parce que l'un des deux a regretté la transaction, eh bien Dieu lui pardonnera ses péchés le jour de la résurrection. Et donc il y a dans cette démarche là la règle suivante, que al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Voilà la première règle, c'est que les deux partie d'une transaction commerciale ont le choix d'annuler, de confirmer leur vente et leur achat, s'il s'agit d'un achat, il y a un acheteur et un vendeur, bien sûr, de l'un et de l'autre, et tant qu'ils ne se sont pas séparés. Donc, à partir du moment où l'un et l'autre se quittent et se séparent, la transaction est ferme et irrévocable. Elle ne peut pas être remise en cause, mais par contre, un acte de bonté, de moralité du commerçant encourage celui-ci à se remettre en cause. Aujourd'hui, il y a même une loi. Un acheteur dans un magasin a le droit, s'il présente la facture et le produit tel qu'il l'a acheté, il peut, et la loi va même jusqu'à imposer au vendeur de restituer et d'annuler la transaction, de restituer l'argent de l'acheteur et de reprendre sa marchandise si celui-ci regrette l'achat, à condition que ce soit un produit qui ne soit pas périssable, ou par exemple un sous-vêtement, où il y a des choses qu'on peut pas rendre, il y a des produits de consommation qu'on ne peut pas rendre, bien sûr. Mais quand on achète par exemple un vêtement ou quoi que ce soit ou qui n'a pas été dégradé par l'acheteur, eh bien le vendeur est dans l'obligation d'accepter l'annulation de la transaction.
Alors on reviendra sur ces règles sur les marchés. Je rappelle que si vous voulez interroger l'imam Abdelali, si vous avez une question à lui poser, composez le numéro du standard de Beurre FM, c'est le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec l'imam Abdelali Mamoun, je rappelle que l'émission est en direct, vous interrogez l'imam dans un instant, 01 53 48 3000, l'émission est enregistrée et donc podcastée, donc vous pouvez la réécouter. Si vous n'êtes pas en direct avec nous, vous ne pouvez pas le faire le jeudi en direct entre 9h et 10h. Et imam Abdelali, nous sommes en train de nous intéresser sur la partie qui concerne le travail, job éthique ça s'appelle. Nous parlons des marchés aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ces parties, des deux parties qui dans le cadre d'une transaction sur un marché, ont le choix de revenir sur cette transaction ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ils ont le choix de revenir dans leur transaction tant qu'ils sont encore ensemble. Et dès qu'ils se séparent, la transaction est terminée et elle est ferme et elle est irrévocable. Par contre...
C'est pas l'équivalent de ce qu'on appelle le délai de rétractation.
Voilà. Le délai de rétractation en islam, elle est seulement limitée
tant qu'on est face à face et que on parle de la transaction.
Voilà. Bien sûr, quand on parle de transaction physique, Par contre, quand on est aujourd'hui, comme on voit, on en reparlera, on fera une émission sur ça, sur les transactions via Internet, via, par exemple, tous les sites de vente sur le net, Amazon et compagnie, etc. Là, c'est une autre réglementation en islam. Même s'il y en a même qui l'interdisent catégoriquement, qui disent que ces ventes via le net sont prohibées. Mais on en reparlera une autre fois. Et néanmoins, la morale musulmane veut que quand une personne regrette sa transaction, eh bien, Dieu le récompensera et lui pardonnera ses péchés le jour de... C'est un acte de piété que si l'un des parties, par exemple le vendeur, qui constate que ce qu'il a vendu, eh bien, il ne l'a pas vendu au bon prix, et demande au client de lui rendre sa marchandise et d'annuler la transaction, si le client accepte, eh bien, il aura fait un acte de piété. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé d'accepter, de dire non, c'est trop tard, on s'est séparés, il n'y a plus rien à faire. Je donne pour cela un exemple d'un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Dharqutni. Selon Al-Wadi, Abil Wadi, c'est un tabi'i, un homme qui vivait après la mort des compagnons, après la mort du prophète, qui dit qu'un jour nous étions en voyage et il y avait parmi eux un homme qui possédait un cheval et l'autre possédait un esclave, un serviteur, un homme. Et l'un a proposé d'échanger, de faire un troc. Il dit, moi je te donne mon serviteur, mon esclave, et toi tu me donnes ton cheval. Et effectivement, celui qui avait le cheval a dit ok, je te donne, je récupère si tu veux le voilà.
Donnant, j'accepte le troc, on
etc.
Y va. Ouais.
Sauf que ils sont restés ensemble et ils ont dormi dans le campement parce qu'ils étaient en camping sur le chemin. Il n'y avait pas de comme à l'époque les auberges. Ils dormaient à la Belle Étoile.
Il n'y avait pas d'ibis.
Voilà, ni d'ibis, ouais, ni d'auberge, ni quoi que ce soit.
Pas d'étapotales, pas de Formule 1.
Voilà, ils dormaient autour d'un feu à la Belle Étoile et c'est comme ça que ça se faisait. Le lendemain, celui qui avait vendu son cheval va vers son cheval, récupère son cheval et lui dit « Mais c'est plus ton cheval, c'est le mien, puisque tu me l'as vendu hier, tu me l'as échangé avec mon serviteur. » Et là, l'homme dit « Non, ça m'intéresse pas, je n'accepte. » Mais il dit « Ouais, mais tu peux pas, la transaction est ferme. »
Ouais.
Et là, ils ont dit « Bah tiens, il y a parmi nous un compagnon qui a vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et donc nous allons aller le voir et nous allons donc demander qu'il tranche entre nous deux. » Et donc, ils sont partis le voir. Il s'appelle, donc le compagnon s'appelle Abu Barza, sahib au Rasulullah sallam. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit « Que penses-tu de cette transaction qu'il a annulée ?» etc. Donc, il a cité ce fameux hadith en disant « Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa » Il dit que les deux parties ont le choix de se rétracter tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et il dit quoi après ? Il dit, et je ne vois pas, et je ne constate pas que vous vous êtes séparés. Donc, il est en droit de revenir sur sa transaction, puisqu'il ne s'est pas séparé de toi. Il est resté avec toi, il a dormi avec toi, dans le même campement. Donc, il n'y a pas eu séparation des corps. Donc, il est en droit d'annuler sa transaction. Et voilà comment Abu Barzata a déduit que la transaction était rétractable, puisque il ne s'était pas séparé physiquement.
Alors, Imam Abdelali, les auditeurs sont avec nous au 01 53 48 3000, direction Rouen. C'est Kader qui a une question à vous poser. Kader, bonjour et bienvenue.
Allô ?
Oui, bienvenue Kader.
Salam alaikum. Oui, bonjour, salam alaikum.
Salam
alaikum. Oui, voilà, donc j'appelais, donc là j'ai suivi l'émission en cours. Et donc j'avais une question par rapport justement à la profession. Parce que là vous étiez sur
le commerce.
Les ventes sur le commerce, le marché, voilà. Donc moi je travaille pour une compagnie d'assurance, voilà, et donc je commercialise tout ce qui est produits d'assurance prévoyance, décès, invalidité, et puis tout ce qui est produits d'épargne aussi, donc avec ou sans risque. Donc je me suis toujours posé la question si éthiquement c'était à l'encontre de l'islam ou pas.
Alors. Le prophète dit dans un hadith authentique qui est notoire, qui est tellement authentique qu'on l'appelle le hadith notoire, il dit le prophète a proscrit et interdit la vente de ce qui est inconnu, de ce qui n'est pas connu. Par exemple, le fait que je t'achète un poisson dans la mer ou un oiseau dans le ciel, un produit qui n'existe pas ou qui n'est pas là. En l'occurrence, là, le souci, c'est que quand on contracte une assurance, c'est qu'on a une personne qui dit, moi je te paye tous les mois ou tous les ans ou toutes les périodiquement une somme d'argent, en contrepartie, tu assures tel ou tel produit. C'est-à-dire, soit mes obsèques, soit le versement d'un capital défini qui est de, par exemple, 50 000 euros ou 20 000 euros à mes héritiers. C'est ce qu'on appelle l'assurance vie. Vous avez l'assurance sur les véhicules, sur les domiciles, ou est-ce que l'on garantit une somme d'argent en cas de dégradation de ce produit-là, soit la voiture, soit le domicile, etc. Sauf que on ne sait jamais si le produit va être dégradé, il va faire l'objet d'un droit de compensation ou non. C'est-à-dire que la personne va peut-être payer des années sans rien avoir en contrepartie, puisqu'il n'aura simplement eu que à payer sans rien avoir en contrepartie. Ou au contraire, dès le lendemain de sa signature, il peut avoir un accident alors qu'il n'aura payé qu'une seule mensualité ou une seule créance et il aura un dédommagement de plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois s'il assurait, je sais pas moi, une maison ou une voiture qui coûte très cher, etc. etc. Donc cette démarche-là est proscrite, est interdite. Par contre, ce qu'il existe et qui est autorisé en islam, c'est les assurances mutuelles, plutôt les mutuelles d'assurance. Les mutuelles, c'est quoi ? La différence d'une assurance classique, c'est que au lieu d'avoir une société qui prend l'argent et qui rembourse, qui vous dit, moi, tu cherches pas à savoir qu'est-ce que je fais de cet argent-là, moi, si t'as un problème, je viens, je te dédommage. Alors qu'une mutuelle d'assurance dit, non, l'assurance, l'argent reste propriété de l'assuré, elle rentre dans une caisse collective avec d'autres assurés, d'autres mutualistes, et on va piocher de cette mutuelle l'argent nécessaire à dédommager ceux qui en ont besoin en temps et en heure. Dans le cas où la société est dissoute, hein, la société mutuelle est dissoute, eh bien, l'argent est restitué à leur propriétaire. Il n'y a pas une personne morale au-dessus, une personne physique ou morale, qui serait propriétaire de cette société-là et qui, elle, mettrait dans la poche l'intégralité de cet argent.
Hein? D'accord.
C'est la différence entre ce qu'on appelle la mutuelle d'assurance qui est autorisée et licite en islam et les assurances classiques qui, elles, sont des sociétés qui engrangent des milliards d'euros parfois, et dès qu'il y a une catastrophe très importante, demande à l'État de l'aide, etc. Et c'est nos impôts qui, finalement, payent les catastrophes, les inondations, etc. Donc, alors que, normalement, c'est à la société qui a assuré la maison, qui a assuré les véhicules qui ont fait l'objet d'une dégradation liée à une catastrophe ou autre, si c'est bien mentionné, bien sûr, dans le contrat. Donc, tous ces contrats-là, en gros, sont illicites, sauf si c'est une mutuelle d'assurance.
D'accord, donc c'est le fait que moi je travaille donc dans une mutuelle, puisque c'est une mutuelle d'assurance, donc je ne suis pas en contradiction.
Non. Non, vous avez tout à fait le droit. Voilà. Alors par contre, il y a des contrats qui ne sont pas licites, hein. L'assurance vie, ce n'est pas autorisé. Hein.
D'accord.
L'assurance vie, non.
Donc, voilà, donc l'assurance vie, non.
Mais les autres, on protège, ce n'est pas assuré. Voilà. Les assurances d'essai, oui, quand il s'agit de capitaliser une somme d'argent petit à petit, qui n'est pas... Voilà, on en reparlera, parce que là, Philippe me bouscule et me dit qu'on n'a plus le temps.
Je vous laisse tout seul.
Les gens ont besoin de détails.
Ou vous prenez des auditeurs et vous prenez les auditeurs qui sont au standard, ou vous faites l'émission sur les assurances vie. C'est comme vous voulez, Mme Abdelali.
J'ai du mal à me concentrer sur deux plans.
Je sais que vous avez du mal à vous concentrer. Merci, Kader. Donc, il y a Belkacem qui attend. Belkacem, bonjour et bienvenue. Belkacem.
Ouais, allô, bonjour.
Salam alaikum.
Si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, Belkacem, enlevez-le.
Ouais, je vais m'arrêter.
Voilà, comme ça, on peut profiter au mieux de votre question à l'imam Abdelali. Allez-y.
Ouais. Allez, salam alaikum, imam.
Wa alaikum salam.
J'ai une question un peu, c'est pas avec le sujet, c'est une autre question. Est-ce que c'est possible?
Vas-y, khoya, vite.
Ouais. Bret Nsoul, elle est taqsir, la prière de taqsir.
Oui.
Je suis un chauffeur routier. Pourquoi je rentre pas? Est-ce qu'il y a juste pour faire taqsir ou pas?
Donc, taqsir, ça veut dire le fait de diminuer la quantité d'unités de prière à 4 unités, c'est-à-dire toutes les prières roba'iyat, on ne fera que 2 unités au lieu de 4. En l'occurrence, il y en a 3 sur 5, dhuhr, al-asr et l'isha. Ces 3 prières-là font l'objet d'une autorisation d'être diminuées en quantité, puisque le verset du Coran est clair là-dessus, il dit « Qala ta'ala wa idha darabtum fil ardi » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Donc en l'occurrence, Dieu autorise le fait de diminuer les prières si vous êtes en voyage, etc. Bon, la dernière partie, إن خفتم الذين يفتنكم الذين كفروا, cette partie-là a été abrogée par la Sunna. Il reste bien sûr la possibilité pour un voyageur qui dépasse une distance de 80 km de pouvoir diminuer ses prières. Alors moi, quand même, j'émets certaines réserves sur le fait que il faut quand même qu'il soit en voyage. Aujourd'hui, avec les moyens de locomotion que l'on a aujourd'hui, vous avez une personne qui va prendre un jet privé de Genève et qui va aller à Paris. Donc il va se faire 600 km ou 1000 km aller-retour et qu'on dira non, il n'est pas voyageur, celui-là il est simplement en déplacement d'affaires, il est là pour simplement se déplacer. Ou quelqu'un qui va prendre un TGV entre Bordeaux et Paris, il va faire un aller-retour en une journée, ça sera simplement un déplacement d'affaires. Est-ce qu'on va appeler ça un voyage? Certains vont dire si, c'est quand même un voyage, donc il peut pratiquer le tarsir. D'autres vont dire non, c'est pas, il n'est pas dans l'intention de voyager, il est dans l'intention d'un déplacement passager, temporaire, limité, qui ne dépasse pas les 3 jours comme l'évoque le hadith, qui exige que ça soit aussi dans le temps. Donc, masirata thalathati ayyam, il faut que ça soit à la fois dans le temps et il faut que ça soit aussi dans la distance, dans le temps et l'espace. Donc, moi, je suis de cet avis qui dit qu'il faut que ça soit aussi dans le temps. C'est-à-dire que si votre voyage dépasse 3 jours, eh bien, vous êtes voyageur dès le premier jour. S'il ne dépasse pas 3 jours, vous n'êtes pas voyageur. Donc, vous ne pouvez pas pratiquer le tarsir.
D'accord. Là, j'ai bien compris.
Parfait, Belkacem, merci pour votre question. Et à bientôt. Et on revient dans un instant. Si vous avez des questions à l'imam Abdelali Mahmoud, vous pourrez les poser. Il y répondra 01 53 48 3000.
À votre service, revient dans un instant. 9h-10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec l'imam Abdelali Mahmoud, vous notez ce nouveau rendez-vous. Donc c'est le jeudi de 9h à 10h, vous retrouvez l'imam Abdelali Mahmoud qui répond à vos questions standard en direct au 01 53 48 3000. Dans un instant, imam Abdelali, vous ferez une analyse de la sourate 4, les femmes, et du verset 29. Mais nous allons à Toulouse et c'est Karim qui nous appelle de Toulouse. Karim, bonjour et bienvenue. Karim.
Oui, bonjour, salam alaikum imam.
Wa alaikum salam à tout le monde, tu peux dire salam alaikum à tout le monde.
Oui, merci. J'ai 2 questions, c'est possible ou pas?
Non, on va commencer par une, il y a trop de monde au standard. Alors on y va. Allez, pour vas-y. La question.
Alors, est-ce que c'est permis dans l'islam de déclarer la moitié de salaire ou pas?
Est-ce que c'est autorisé de déclarer la moitié de son salaire, tiens, ou de déclarer, ouais, ou de ne pas déclarer du tout?
C'est-à-dire... Ça veut dire que c'est de frauder le fisc de 50%, c'est ça?
Voilà. Ouais. C'est-à-dire, tu me demandes...
Si j'ai compris, hein.
Tu demandes, est-ce que la religion musulmane peut être... membre du service des fraudes et de la répression des fraudes, la réponse est non. L'islam n'est pas là pour se prononcer sur la question de la répression des fraudes. Elle est là simplement pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une activité. Maintenant, si l'État impose des règles, c'est elle qui les aura choisies et c'est entre elle et les citoyens. Maintenant, on peut y ajouter une notion de respect du pacte. Le musulman est censé respecter. Qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu awfu bil 'uqud anta ta'aqadta ma'a al-hukuma. Dans le cadre où tu t'es engagé à respecter un pacte et un accord entre toi et l'État dans lequel tu t'es engagé à déclarer tes revenus intégralement. Si tu ne respectes pas ce pacte-là, tu as enfreint la loi de Dieu, bien sûr.
Donc la réponse est non.
Oui, non.
D'accord, donc même si c'est obligé par le patron, même s'il m'oblige de...
Ah si c'est le patron, non, si c'est le patron, c'est lui qui assume, hein. C'est pas toi. Non, c'est pas l'employé qui a déclaré ou pas, c'est au patron de déclarer son employé, l'activité son employé, il n'a rien à voir lui. Personne n'assume les responsabilités des autres. C'est au patron de choisir de te déclarer ou pas, et à toi d'accepter ou non, si tu es au courant, hein, de choisir, parce qu'il faut savoir que quand on ne te déclare pas... une partie de ton activité qui n'a pas été déclarée, tu n'es plus protégé, tu ne fais plus l'objet d'un droit à la retraite, etc., ouais, etc., des cotisations à la retraite, tout ça. Donc, faut faire attention.
Ok, merci beaucoup.
Merci, Karim, de votre compréhension. Salut. Alors, c'est j'ai cru que c'était Zemmour, donc j'ai eu peur, enfin Zemmour de Paris, mais c'est Zermoun. Zermoun, bonjour et bienvenue.
Oui, allô.
Salam alaikum. Zermoun, c'est ton prénom?
Janoun, mon prénom. Alaykoum salam, Janoun.
Janoun. Ah, d'accord. Msharfina, khouya, tfaddal.
Ça va, l'imam, la bachalik.
Marhaba bik, khouya, ahlan wa sahlan. On t'écoute.
Khouya, je t'appelle par rapport au crédit.
Oui. C'est un autre sujet, ça. On va avoir une émission sur ça. Sur le crédit.
Là, c'est une question parce que moi, j'en ai des enfants. Je parlais avec l'imam de ma ville, il m'a dit, moi, je voulais acheter la maison pour faire le crédit. Il m'a dit, vu que j'en ai des enfants, il me dit, c'est Darora, j'ai le droit.
D'accord.
Alors, c'est pour savoir, toi, ce que tu vas m'acheter.
Alors, le mot Darora...
C'est peut-être un imam suisse ou américain.
Alors, le mot Darora, pour que nos auditeurs comprennent, il parle de nécessité qui fait loi. Voilà. Sauf qu'il y a une règle qui dit « Ad-darura tuqaddaru biqadariha » que la nécessité se limite par ce qu'elle représente comme limite. C'est-à-dire que, en principe, ce que l'on appelle la limite, eh bien, c'est celle qui préserve la vie. Est-ce que ça consiste une préservation de la vie que d'acheter une maison, oui ou non ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vital pour toi d'avoir une maison ou pas ? La réponse est non. À part celui qui vit sous les ponts, et qui, où l'hiver, il est en Pologne, il y a moins 20 ou moins 30, moins 30 degrés, il risque sa vie et la vie de ses enfants, et il n'a pas d'autre choix que de faire un crédit, eh bien, il va faire un crédit pour avoir un logement et protéger la vie de sa famille et de soi-même. Mais on n'est pas en Pologne et on n'est pas dans ce cadre où est-ce que le crédit est plus accessible que la location. Ce n'est pas vrai. C'est la location qui est plus accessible en France comme ailleurs. Et donc, à partir de là, à partir du moment où la possibilité de louer est ouverte, donc on doit privilégier l'allocation à l'achat avec crédit usurier, sauf si on a de l'argent et on achète cash.
Okay, voilà. Okay. Parce que moi, il m'a dit pour les enfants, vu que j'en ai les enfants, il me dit...
À Royal Calais, moi, je ne vais pas là pour débattre que l'autre imam, il a dit ça par rapport à ça. Moi, je te dis ce qui est dans le Coran. Il dit « Yaladina manoula ta'kulu riba adhafa mudhafa ». Je suis pas là pour débattre les avis des autres savants. Je suis là simplement pour dire que Dieu a proscrit la pratique de l'usure. Il le considère comme un des sept péchés capitaux. Akl al-riba, c'est un des sept péchés. Je vais pas, moi, m'amuser à, la dérogation, elle est là que seulement quand c'est vital. Si c'est vital, achète. Si c'est pas vital, non. À toi et ta conscience de réfléchir à la réponse à cette question.
Merci pour votre question. C'est la sourate 4, le verset 29, Imam Abdali, que vous nous proposez d'analyser aujourd'hui.
Alors, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, le Coran, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbatili illa an takuna tijaratan an taradim minkum » Le verset est long, mais je le traduis en français. « Oh, les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas ou ne consomment pas les biens ou ne s'accaparent pas. » ne s'accapare pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal, du commerce entre vous par consentement mutuel. Avec consentement et avec accord mutuel. Mm-hmm. Donc voilà ce verset-là qui est en rapport avec notre sujet que nous venions d'évoquer sur le job éthique qui est la transaction commerciale. Eh bien, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal permet la transaction commerciale. Eh bien, Qatada, un des grands savants du début de l'avènement de l'islam, dit concernant l'interprétation de ce verset, il dit que At-tijaratu rizqun min rizqillah, le commerce est une manière de s'enrichir et de se nourrir de la nourriture de Dieu. Wa halalun min halalillah, que c'est quelque chose de licite, que Dieu a rendu licite. Liman talabaha bisidqiha wa birriha, à l'égard de celui qui l'aura cherché avec sincérité et avec bonté pieuse. Et il disait, Qatada, que parmi les sept catégories de gens qui seront sous l'ombre de la miséricorde de Dieu, sous l'ombre du trône de Dieu le jour de la résurrection, eh bien, il dit que At-tajirul amin as-saduq ma'a as-sab'ati fi dhilli al-'arshi yawm al-qiyamah. Qu'il fera partie de cette huitième, parce qu'il y en a sept normalement, mais c'est une huitième catégorie, de gens qui seront sous l'ombre du trône de Dieu, eh bien, les commerçants, et qui seront honnêtes, intègres et sincères dans leurs transactions commerciales. Il est raconté que Imru al-Qais, un sahabi, radiallahu anhu, ne pas confondre avec son grand-père qui était Imru al-Qais, Imru al-Qais ibn Abis ibn al-Mundhir al-Sahabi, ne pas confondre avec Imru al-Qais ibn Muawiyah al-Akramayn al-Kindi. C'est son grand-père, certes, mais Imru al-Qais, qui était le premier, qui était le maître des poètes arabes. Philippe, c'est le maître des poètes de la poésie arabe. Imru al-Qais, c'est le plus grand poète de tous les poètes que Dieu a créés sur terre. Poète arabe, bien sûr. Hein. C'est Imru al-Qais, Ibn Muawiyah al-Akramayn al-Kindi, qui a vécu avant l'avènement d'Islam, puisqu'il était Il était au début du 6e siècle. Hein. Il est né en l'an 500, il est mort en 500 et quelques, donc 580, etc. Donc il a vécu avant l'avènement de l'islam, puisque le prophète lui est né en l'an 570, donc il l'a à peine rencontré quand il était tout petit, le prophète. Hein. Donc ce grand poète Jahili n'a rien à voir avec notre compagnon dont nous évoquons l'histoire, qui est Imr al-Qais, son petit-fils, Ibn Abbas Ibn al-Mundhir, qui dit qu'un jour, il s'est confronté avec un Hadrami, avec un homme qui s'appelle Aidan ou Al-Abdan Ibn al-Ashwa' al-Hadrami, sur une parcelle de terrain. Et Imr al-Qais disait que c'est mon terrain. Et l'autre disait non, c'est le mien. Chacun se revendiquant comme étant le propriétaire de ce terrain. Ils sont venus voir le prophète et le prophète a dit bien sûr la règle que tout juge doit utiliser, c'est al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa al-yaminu 'ala man ankar. À l'un d'apporter la preuve de ses accusations et à l'autre de jurer s'il n'a pas été prouvé l'accusation telle qu'elle est. Donc Umar al-Qais dit je n'ai pas de preuve, mais je sais que si l'autre jure, il va prendre mon terrain. Il va prendre mon terrain. Et donc le prophète dit, certes, et il est vrai que s'il jure et que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas son terrain, eh bien Allah Azza wa Jal, il le rencontrera et, alors que Dieu est en colère contre lui. Quelqu'un qui jure pour obtenir un gain, un bien, par le mensonge de faire le sermon au nom de Dieu, eh bien rencontrera son Seigneur le jour de la résurrection alors qu'il est en colère contre lui. Laqiya Allah Azza wa Jal wa huwa alayhi ghadban. Et là, Ibn al-Qais dira, « Ya Rasulallah, et si moi je me désiste et que je lui laisse le terrain, alors que malgré que c'est le mien, il a dit, tu iras au paradis. » Il a dit, « Ya Rasulallah, je te prends à témoin que je lui laisse mon terrain si c'est pour obtenir le paradis. » Voilà comment étaient les compagnons du prophète, radiallahu anhu, dans la gestion des conflits.
Abdelrazak, oui, est avec vous. Imam Abdelali, il a une question au standard au 01 53 48 3000. Bienvenue Abdelrazak.
Non. Allô, salam alaykoum.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallahu fik. J'ai juste une question parce que tu me dis que j'en ai arf exactement et j'écoute votre conseil, s'il vous plaît. Alors, c'est qu'en français, on m'a dit d'Alf l'Algérie.
Tu peux parler en français, donc tu habites en France et tu as une maison en Algérie, c'est ça?
Non, j'ai pas de maison en Algérie.
Ah, tu n'as pas de maison?
Oui, qui nous rend vacances par exemple chaque année, on a de la famille, on a des beaux-parents ou un frère.
Ou ta famille aussi, tu peux avoir une famille toi aussi.
J'ai une famille, oui. J'ai une famille, un frère, bon. Et voilà où on a habité une chlédard, je voulais acheter une maison à crédit là-bas. Je sais, riba, c'est haram, catégorique.
Ah, mais attention, c'est pas tous les crédits qui sont haram. Il y a en Algérie, par exemple, Qard al-Hassan qui se pratique. Hein, la banque El Baraka qui propose des crédits non usuriers, sans intérêt, ou ce qu'on appelle des contrats de Murabaha, c'est-à-dire des transactions commerciales qui consistent à permettre à la société d'acheter le terrain ou la maison sur lequel tu veux construire ta maison ou l'appartement que tu veux acheter, et il te le revend à terme plus cher. C'est une vente à terme plus chère que l'achat. Bah, c'est comme fait n'importe quel marchand qui va acheter une marchandise à 1 euro le kilo à Rungis, hein, des pommes de terre par exemple, et il va les revendre 1,50 ou 2 euros sur le marché en détail. Donc acheter une maison chère à un prix puis la revendre plus cher, c'est halal, c'est le bay'a. Qala ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Dieu a autorisé la vente et interdit l'usure.
Justement, cher, moi, par rapport à ça, moi, pour accéder à un crédit par la banque algérienne en Algérie, là, ça rentre dans les bains.
Taïb, je vois, parce que Nahtan aussi, je suis algérien, donc je sais ce qui se passe là-bas. Voilà. Et donc, c'est quoi ta question?
Alors, ma question, si je fais un prêt à la banque algérienne en Algérie, je suis rentré dans les bains.
Si tu as 0,00 quelque chose d'intérêt dans le remboursement de ton crédit, tu es dans l'usure. Tu es dans le riba. S'il y a 0%, 0,0 et rien, c'est 0% d'intérêt, c'est autorisé. La banque a le droit quand même de prélever des frais de gestion, hein, à condition que les frais soient identiques pour tout le monde et qu'ils ne soient pas liés au capital prêté.
D'accord. Oui. Bon, comme en Algérie, la banque, il y a de l'usure.
Pas partout en Algérie, hein, pas toujours.
Oui.
Il faut chercher.
D'accord. Barakallahu fik, voilà. Et comme ça, je ne vais pas d'erreur.
Rabbi Haouna Alik.
Merci de votre question. Arafat est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Salam alaikum, imam.
Marhaban. J'ai à salam ouïr à l'imam. Dis salam alaikum à tout le monde.
Salam
alaikum. À tous ceux qui nous écoutent, quand vous nous rejoignez sur l'antenne, vous dites salam alaikum à tout le monde. Y compris à Philippe, à Fatima, à toute l'équipe de Beurre FM et à tous les auditeurs et auditrices.
On les écoute souvent en plus.
Mashallah.
Vous m'avez perturbé. J'étais de bonne humeur ce matin et là vous m'avez fait peur. J'ai une question, l'imam, s'il te plaît. J'ai écouté un auditeur qui a posé une question par rapport à l'assurance, qui travaillait dans le monde de l'assurance.
C'est l'assurance vie qui vous a perturbé ?
Non, c'est plutôt le fait de vendre des produits d'assurance.
Il a dit qu'il travaillait dans une mutuelle d'assurance, donc c'est bon.
Moi, je travaille dans un cabinet de courtage en assurance.
D'accord.
Et la question est la suivante.
Oui, mais les courtages, ils travaillent avec toutes les sociétés.
Exactement.
Tu n'as qu'à travailler qu'avec les mutuelles d'assurance. Les sociétés d'assurance.
Je suis simple salarié, donc ma question est la suivante. Est-ce que dans ce cas-là, moi, je dois arrêter et quitter mon travail actuel pour trouver quelque chose qui sera beaucoup plus...
Moi, je répète à toi et à tous ceux qui nous écoutent et qui ont n'importe quelle activité dont ils soupçonnent que dans l'intérieur même de l'activité, il y a un problème d'éthique et de morale islamique, bien de garder leur travail en attendant de trouver quelque chose qui correspond et qui rentre dans le cadre de l'éthique islamique et dans ce qu'on appelle la charia compatible, qui est compatible avec les préceptes du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed. Mais en attendant, vu que tu as besoin de nourrir ta famille, nourrir tes enfants, tu ne peux pas abandonner comme ça du jour au lendemain ton activité. Donc garde ton travail, mais en attendant, cherche quelque chose d'autre. Dès que tu l'as trouvé, tu transfères.
Alors, passe à autre chose. Juste pour approfondir cette question, est-ce que tous les postes dans cette société sont illicites ou seulement le fait de vendre des produits ?
Alors, vu que le temps, on n'a plus le temps, Khouel Karim, je t'invite à m'appeler hors antenne. Hein, et puis, on en reparle si tu veux hors antenne. Donc, mon numéro, c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. Tu peux m'appeler hors antenne tout à l'heure, hein, pas tout de suite, laisse-moi un peu de temps.
Mais tous les postes sont illicites, oui ou non ?
Tous les postes ?
Mais de la société où ils travaillent.
Non, ça dépend, je dis bien, ça dépend.
Ah bon, si,
ça dépend, on ne peut pas répondre comme ça, qu'on rentre dans les détails.
Donc, sinon on reviendra sur le sujet de la semaine prochaine.
On fera peut-être une émission
sur les assurances précisément, parce que je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc vous avez le numéro de l'imam pour l'appeler, et effectivement c'est le même numéro que vous utilisez, puisque l'imam organise une omra très bientôt.
Inch'Allah, donc ceux qui veulent vraiment s'enrichir et connaître en détail leur religion, venez avec moi, je vous propose 13 jours en ma compagnie, pour apprendre toute votre religion, découvrir les sources de l'islam, les reliques du prophète à Istanbul.
C'est long, 13 jours avec vous, c'est long, hein ?
Je n'impose rien.
Ah oui, non,
je me mets à la disposition des pèlerins. Ah bon. Et puis, ceux qui ont besoin de moi, je suis là pour répondre à leurs questions et à leurs interrogations.
Donc, la date de départ, c'est ?
Du 23 février au 8 mars. Les vacances d'hiver. En circuit, en passant par Istanbul, Médine et Mecca.
D'accord. On rappelle votre numéro de téléphone.
06 29 25 35 00.
Et on vous retrouve, Imam Abdelali, jeudi, comme tous les jeudis, puisque vous êtes avec nous. Demain, c'est Maître Serran qui sera à votre place.